France Musique. Musicopolis. Mars 1799, Vienne, Burgtheater. Dès 4 heures de l'après-midi, se souvient Johann Friedrich Berwald, compositeur suédois, notre serviteur nous a prié de nous hâter, car le théâtre, malgré un début annoncé pour 7 heures, était déjà assiégé par une foule immense. À notre entrée dans la salle, nous vîmes que la scène avait été disposée en amphithéâtre. En bas, assis au pianoforte, le maître de chapelle Weigel, entouré des solistes vocaux, du chœur, du violoncelle et d'une contrebasse. À un niveau plus élevé, Haydn lui-même, avec son bâton de chef d'orchestre. Encore plus haut, d'un côté les premiers violons conduits par Paul Wranitzky et de l'autre côté les seconds violons conduits par son frère Anton Wranitzky. Au centre, les altos et les basses. Au niveau les plus élevés, les instruments avant, avec au sommet les trompettes, les timbales et les trombones. Telle était la disposition de l'orchestre, et avec les chœurs, on avait un total d'environ 440 exécutants. Alors que la foule se presse en cet après-midi de mars au Burgtheater pour entendre la première audition publique de La Création, le nouvel oratorio de Haydn, on voit les troupes du tsar Paul Ier traverser Vienne pour rejoindre l'Italie et y combattre les armées françaises du Directoire. C'est que pour la deuxième coalition qui s'oppose à la France révolutionnaire, l'Autriche des Habsbourg s'est alliée avec les Russes. Voilà de quoi inquiéter la société viennoise, qui pourtant oublie ses préoccupations pour se rendre au théâtre. Le célèbre Haydn a exécuté sa création du monde, raconte un témoin, et je ne puis te dire, cousin, à quel point c'était plein. Jamais aucun théâtre, depuis qu'il en existe, n'a réuni tant de monde. J'étais à la porte dès une heure, et c'est au risque de perdre la vie et d'avoir les membres brisés que j'ai pu dénicher un tout petit siège au dernier rang du quatrième étage. Avant le début de la cantate, il y avait un tel bruit qu'on ne pouvait s'entendre penser. On criait « Aïe ! Mon bras ! Mon pied ! Mon chapeau !» Les dames appelaient les domestiques envoyés en avant, réservés des places, et les domestiques appelaient leurs maîtresses et les gens s'entassaient les uns sur les autres. De sorte qu'on entendait les fichus, les châles et les chemises se déchirer de partout. Enfin, la musique a commencé. Et d'un seul coup, tout est devenu si tranquille que vous-même, mon cousin, auriez pu entendre trotter une petite souris. Et si on n'avait pas applaudi si souvent, vous auriez pu croire que le théâtre était vide. Il est bien certain qu'à ce moment précis du morceau, le 19 mars 1799, les Viennois retiennent leur souffle. Ils ont le livret sous les yeux. L'un des trois solistes va se mettre à chanter. C'est la basse qui incarne l'ange Raphaël. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et toute nue, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu flottait à la surface des eaux. Or, Dieu dit... que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le public du Burgtheater de Vienne vient de recevoir un choc considérable avec l'arrivée de la lumière. Un diplomate suédois, ami de Haydn, raconte l'effet qu'avait déjà fait ce passage lors de la première audition privée de l'oratorio. Personne n'avait vu la page de la partition dépeignant la naissance de la lumière. C'était le seul endroit de son travail que Haydn avait tenu caché. Je crois voir encore son visage au moment où ce trait sortit de l'orchestre. Haydn avait la mine de quelqu'un prêt à se mordre les lèvres, soit pour réprimer sa confusion, soit pour dissimuler un secret. Et à l'instant précis où pour la première fois cette lumière éclata, tout se passa comme si ses rayons avaient été lancés des yeux brûlants de l'artiste. La réaction des Viennois, électrisée, fut telle que pendant quelques minutes, l'orchestre ne put continuer. Laissons à présent ses premières exécutions de la création et remontons dans le temps jusqu'à sa genèse. Arrêtons-nous à Londres en 1795. Haydn en est à son deuxième séjour dans la capitale britannique. Il est adulé comme aucun autre musicien et considéré comme le plus grand compositeur vivant. Salomon, l'impresario qui l'a fait venir et qui a fait un tabac avec ses concerts, voudrait bien qu'il lui écrive un oratorio. Il lui donne un livret d'après Milton. Haydn le lit, le trouve un peu long et surtout il n'est pas certain de maîtriser assez bien l'anglais pour pouvoir le mettre en musique. Il le garde cependant et il le rapporte à Vienne. Quelque temps plus tard, le baron Gottfried von Swieten, qui a déjà fait entendre à Vienne les grands oratorios de Handel, remis au goût du jour par Mozart ou Haydn, lui demande à son tour de composer une grande œuvre avec chœur, soliste et orchestre. Haydn propose aussitôt le livret anglais. Van Swieten s'en empare, le traduit, l'allège, le transforme, le raccourcit et le rend au compositeur qui se met au travail. Nous sommes dans le courant de l'année 1796. Lorsque Haydn était à Londres, il avait pu entendre les oratorios de Handel et admirer comme celui-ci savait bien mettre les mots en valeur et peindre de véritables tableaux vivants par sa musique, comme par exemple celui des sept plaies dans Israël en Égypte. À son tour, Haydn se régale d'illustrer son texte par des figuralismes appropriés. On l'a vu avec l'apparition de la lumière, On le voit aussi avec la création des animaux. Successivement, il illustre le lion rugissant de joie, le tigre qui bondit vers les hauteurs, le cerf, le cheval, les brebis qui pèsent tranquillement, les insectes qui tourbillonnent et même les vers qui glissent lentement sur le sol.
Das zackige Haupt erhebt der schnelle Hirsch. Mit fliegender Mähne springt und wird voll Mut und Kraft das edle Ross. Das volle reiche sanfte Schaf. Die Staub verbreitet sich in Schwarm und Wirbel, das Heer der Insekten.
Pourtant, dit le livret de la création, tout n'était pas encore accompli. Une créature manquait à l'ensemble qui contempla avec reconnaissance l'œuvre de Dieu et loua la bonté du Seigneur. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Il exhala dans sa bouche le souffle de la vie et l'homme se transforma en être vivant. Et Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites. Et elles étaient très bonnes. Et le chœur céleste célèbre la fin du sixième jour par des chants sonores. Si on compare la position de l'être humain dans la création de Haydn et celle qu'il occupe un demi-siècle plus tôt, dans les Passions de Bach par exemple, on mesure l'évolution à l'œuvre. Chez Bach, chez le luthérien du début du XVIIIe siècle, dans la période que nous appelons baroque, l'homme n'est rien en face de Dieu. À la fin du siècle, chez le catholique Haydn, fin de la période classique pour la musique, l'homme est la créature que Dieu a faite à son image, dans l'intention de louer le Créateur et toute sa création. C'est que nous en sommes à la fin du siècle des Lumières, et dans un milieu où les idéaux de la franc-maçonnerie sont très présents et très puissants. On croirait vraiment entendre une pièce maçonnique comme celle que Mozart a composée, avec de nombreux signes du chiffre 3, l'un des symboles maçonniques les plus facilement repérables dans la musique. Dans la tonalité de mi bémol majeur, avec trois bémols à la clé, Haydn présente les trois anges, Gabriel, Uriel et Raphaël, dans une orchestration d'instruments avant et une atmosphère recueillie. C'est ensuite Adam et Ève qui sont présentés comme l'heureux couple dont les regards rayonnent d'un chaud sentiment de gratitude. Haydn est un bon catholique et il est aussi franc-maçon. Et comme son librettiste Van Swieten, il est très imprégné de la philosophie des Lumières, qui voit les êtres humains comme des frères et qui proclame, comme le livret de la création, « Enfin, le temps est venu où la vérité émerge en une splendeur nouvelle des ténèbres qui l'avaient enveloppée et retrouve tous ses droits. » Dans l'Europe de 1799, ravagée par la guerre, Europe qui voit s'opposer les coalitions, les politiques et les religions, Haydn va mettre tout le monde d'accord. Et avant même la fin de l'année, son oratorio se sera propagé comme une traînée de poudre. Le chœur final de la création de Haydn avec le chœur Arnold Schönberg, le Concentus Musicus de Vienne, sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Jean-Michel Bernot pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site. À réécouter sur francemusique.fr.